Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Thierry Santurène.
Bonsoir Noël.
Alors en 2012, l'avant-scène Opéra fait paraître un numéro spécial consacré à Robert Cassène. Vous écrivez à l'intérieur un article, La femme selon Carsen. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez voulu faire davantage sur Carsen et est née l'idée du livre? Ou est-ce que parce que vous avez fait La femme selon Carsen que vous avez choisi ce titre, Robert Carsen, l'opéra charnel, qui est sorti donc cette année aux presses universitaires de Vincennes? La genèse de ce livre?
Alors en fait, ce n'est pas du tout lié à l'article de l'avant-scène opéra. L'avant-scène opéra, Chantal Cazot, la directrice de l'avant-scène opéra, sachant que j'avais en préparation un ouvrage sur Robert Carsen, m'avait sollicité pour ce numéro de l'avant-scène qui était en gestation à ce moment-là. Et alors pourquoi on peut peut-être revenir un instant sur cet article, la femme selon Carsen, car la femme est une figure centrale dans ses mises en scène. Il sait admirablement mettre la femme en valeur. Il faut dire aussi, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, que Robert Carsen est un fan absolu du cinéma d'Hitchcock et les blondes somptueuses du cinéma d'Hitchcock, tout le monde connaît. Voilà, donc il y avait quelque chose déjà à travailler et pendant que j'étais donc en train de réfléchir sur tout son travail, la femme s'est imposée comme galop d'essai en quelque sorte.
Alors avant de parler de Carsen, de revenir sur son parcours, le vôtre, votre parcours avec Carsen, la première fois que vous avez vu une mise en scène de Carsen, c'était où? C'était bien?
Ah, c'était bien, oui. La preuve, j'ai continué à en voir beaucoup après. C'était à Aix-en-Provence. C'était à Aix-en-Provence, la très fameuse, ça nous ramène aux années 90, la très fameuse mise en scène du Songe une vie d'été qui doit circuler, les fameux lits suspendus. Et c'était aussi l'explosion de Carsen au niveau mondial et au niveau français également. Et là, j'ai été ébloui. Je n'étais pas le seul d'ailleurs à être ébloui. Et j'ai pu continuer à découvrir son travail après, car bon, pour des raisons personnelles, je vivais près de la Belgique. Et j'ai découvert tout son fameux cycle Puccini au théâtre d'Anvers. Et l'éblouissement a continué. Je ressortais à chaque fois de ces mises en scène avec des images somptueuses en tête. Et là, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi ce théâtre me fascine autant? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces images sont littéralement obsédante.
Bon, c'était simplement. On parle de choc,
c'est ça. Les images restent en mémoire quand on a vu une mise en scène de Carsen, et ce n'est pas le cas avec toutes les mises en scène d'opéra ou de théâtre en général. Et voilà, donc je n'avais pas l'idée de faire quoi que ce soit sur lui à ce moment-là, c'était un peu tôt. Mais finalement, il s'est trouvé que, avec mon existence de spectateur d'opéra, j'ai vu à peu près tout son travail. Vous savez, les amateurs d'opéra, ça voyage beaucoup, voilà. Et ce qui fait que je n'ai certes pas vu la centaine de mises en scène qu'il a pu réaliser, mais j'en ai vu, disons, qu'est-ce qu'on va dire, 75% à peu près. Et pour le reste, il est bien documenté par le DVD, et il m'a également donné des instruments de travail, vous savez, ces plans fixes qui peuvent servir après pour reconstituer une mise en scène. Et là, en l'occurrence, j'avais une grosse lacune. Il a mis en scène la tétralogie de Wagner, oui. 15 heures de musique, chose d'approchant, hein, voilà. Et je n'avais pas pu voir la création de la mise en scène à Cologne, en Allemagne. Et j'étais très désemparé parce qu'il fallait après que j'attende, c'est ça le problème de travailler sur une mise en scène, il fallait que j'attende une reprise à Barcelone. Je n'avais pas le temps.
C'était difficile d'avoir accès à une vidéo de travail?
Eh bien, justement, si. Voilà, j'ai eu accès à une vidéo de travail, mais vous imaginez ce que c'est que la tétralogie en plan fixe sur un écran de télévision pendant à peu près 15 heures. C'est assez difficile.
Je n'imagine pas.
Voilà. Mais quand on est en entreprise, ce genre de travail, il faut faire ce genre de sacrifice.
Eh bien, alors parlons-en maintenant. Comment est-ce que Robert Carsen vous a aidé ou a collaboré ou non collaboré à l'élaboration de ce très beau livre, très richement illustré,
merci,
280 pages?
Il a accueilli la nouvelle. Bon, je l'ai contacté par des amis. Je l'avais déjà croisé, mais enfin, on ne se connaissait pas réellement. Donc, je l'ai contacté par des amis. Et je me souviens, la première fois où on s'est rencontrés de façon officielle, c'était dans la salle de l'Opéra Bastille, où un ami m'a présenté à lui. Et là, sa première réaction, c'était « Vous faites un livre sur moi, je suis un homme fini ». Voilà, coquetterie de sa part, en fait. Il était tout à fait ravi. Il était tout à fait ravi qu'on écrive un ouvrage sur lui. Et il a été vraiment tout à fait charmant. C'est déjà un homme charmant, en soi. Un professionnel absolu qui sait gérer le moindre détail de son travail. Et il a toujours été très réactif dès que je m'interrogeais sur un aspect de son travail. Et parfois, il faut se méfier, vous savez, quand on fait une analyse, on a un peu tendance à aller trop loin. Donc, de temps en temps, est-ce que ce que je raconte ne relève pas du délire absolu? Et là, il me me montrer que non, non, c'était très intéressant. Il n'avait pas parfois pensé à tout ce que je disais, mais c'est normal. Oui. Un artiste ne peut pas penser à tout ce qu'il met dans un travail, en l'occurrence.
Et puis c'est la part du travail du public aussi, d'avoir sa propre interprétation.
Absolument, le public doit faire son travail de public. Il ne faut pas l'oublier, en effet, faire son propre parcours à travers ce que le metteur en scène lui propose, évidemment, comme chemin, une direction principale.
Et à la fin de ce chemin, l'édition, la publication du livre, vous lui avez envoyé ? Vous avez eu un feedback ?
Alors, on a travaillé quand même un peu plus en amont, c'est-à-dire pour la question des photographies, parce que évidemment, il fallait illustrer le livre. On ne parle pas de mise en scène sans photographie pour appuyer son travail. Et j'avais fait un choix de photographie qui me semblait être en correspondance avec mes analyses, mais quand même, connaissant son œil formidable, je ne pouvais pas faire autrement que de le solliciter pour qu'il me donne un avis sur ce que j'avais choisi comme photo. Et là, il y a eu de nouveau tout un travail. Non, celle-ci, non, celle-là, ou plutôt celle-là, celle-là. Donc voilà, il a quand même participé sur cet aspect-là à l'élaboration du livre également.
Très belle iconographie. Et donc, vous avez eu un retour de sa part lorsque le livre a été publié ?
Bien sûr, mais il était tout à fait enchanté, pratiquement comme un enfant, de voir qu'on avait consacré un ouvrage entier à son travail, car bon, on l'avait fait pour Chéreau, on l'avait fait pour quantité de figures de la mise en scène d'opéra, mais jamais pour lui, à part naturellement l'avant-scène opéra qui avait un peu défriché le terrain.
Alors, Carsen, avant qu'il ait cette révélation internationale, notamment grâce à Hugal, quel était son parcours ? Il a commencé par des études de théâtre ?
Alors, justement, il a commencé, il est donc canadien, il a commencé, en fait, il a découvert le théâtre lors de son parcours de lycéen. Il a fait une partie de ses études au Canada, mais aussi en Europe, en Suisse très précisément, où déjà il faisait beaucoup de mise en scène pour ses camarades, donc il y avait une passion qui naissait. Et il a décidé de faire des études de théâtre, mais théâtre au niveau universitaire. Hein, oui. Vous voyez de quoi il s'agit, donc. Il a décidé de faire ses études de théâtre. Et puis, un jour, il s'est retrouvé dans une salle d'examen en train de rédiger une dissertation sur le théâtre. Voilà. Et puis, il a regardé sa copie. Puis, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est pas ce que je veux faire. Donc, il a jeté sa copie d'examen dans une poubelle. Il est sorti. Il a dit à ses parents le soir même, je pars en Angleterre pour étudier réellement le théâtre, c'est-à-dire devenir acteur. Voilà.
Et avec les plus grands ?
Avec les plus grands, naturellement. Et là, bon, il a fait des études de théâtre en Angleterre. Puis, finalement, il a continué à faire de la mise en scène. Là, et décidément, il avait véritablement un feeling pour ça. Il avait tout le temps des bonnes idées. Ses professeurs avaient été frappés très vite par cette capacité à trouver l'idée, en fait, pour une mise en scène, le petit truc, l'astuce, la direction d'acteur. Et voilà, finalement, on l'a encouragé à se lancer plus tôt dans la mise en scène. Et au fil des rencontres, il a eu l'occasion à un moment donné, on lui a proposé de devenir l'assistant du metteur en scène Giancarlo Menotti, qui dirigeait le festival de Spoleto en Italie. Voilà, de faire un travail d'assistanat. Les metteurs en scène ont besoin d'assistants, bien entendu. Et il est parti là-bas, voilà. Et puis il a découvert tout l'univers de l'opéra. Et après, il a continué à travailler avec différents metteurs en scène, le metteur en scène britannique John Cox. Il a travaillé avec le très sulfureux Ken Russell, le fameux cinéaste que tout le monde connaît, qui faisait aussi pas mal de mises en scène d'opéra à une certaine époque. Voilà, donc Ken Russell avait un univers tout à fait fou, délirant, vous vous souvenez peut-être de certains de ses films, et ça se retrouvait dans ses mises en scène. Il a été un peu influencé par ce travail-là, quand même, au début. Et puis, il y a eu également la découverte du travail de Peter Brook, grande figure du théâtre, qui l'a influencé, là aussi, pour, cette fois, choisir plutôt un certain dépouillement de la scène pour mettre en valeur l'essentiel des histoires.
À quel moment Hugal et René Auphan l'ont repéré ?
Alors, ils l'ont repéré assez tôt, en fait, dans les années 80. Hugal avait vu une de ses mises en scène à Londres pour un festival. Il mettait en scène la Finta Giardiniera de Mozart. Et là, il s'est dit que, véritablement, il y avait quelque chose, il y avait une patte particulière chez ce jeune homme. Et il a invité à Genève. Et après, c'était toute une aventure, la mise en scène de Méphistophélé, notamment la vision de Carnaval, qui est donc un extrait de cette mise en scène. Et cette mise en scène a contribué à le lancer. Et il y a eu, comme je disais tout à l'heure, le fameux Songe d'été qui l'a lancé peut-être davantage auprès
sur
du public français.
Sur la scène internet.
Oui, absolument, parce que c'est une mise en scène qui a été énormément reprise et qui l'est d'ailleurs encore régulièrement. Elle a été au Festival d'Aix-en-Provence où elle a été créée. 25 ans après, on l'a reprise et ça fonctionnait toujours autant que la première fois.
Alors, quand il a créé le Songe d'une nuit d'été, qu'est-ce que Carsen apportait à la mise en scène? Qu'est-ce qui n'avait pas été dit et que lui disait? Qu'est-ce qu'il montrait qui n'avait pas été montré? On pourra en parler tout à l'heure de son univers très graphique, très architecturé, des photos, enfin des couleurs aussi, la façon dont il travaille les couleurs. Mais là, c'est une espèce de synthèse, c'est vrai que c'est un choc. Qu'est-ce qu'il apportait de nouveau à la mise en scène qui n'était pas complètement imbibé justement de Peter Brook ou d'autres qui l'avaient influencé?
Alors précisément, ça serait peut-être un travail charnière, parce que l'influence de Peter Brook est très présente dans cette mise en scène du Songe d'une nuit d'été. Parce que Peter Brook avait mis en scène le Songe d'une nuit d'été, mais non pas l'opéra de Britten, mais la pièce de Shakespeare. Et il lui a rendu hommage à travers certains détails de mise en scène.
Lesquels?
Par exemple, les fameux lits suspendus que vous allez voir ou que vous avez vus, voilà, ça correspondait à des nacelles qu'il y avait dans la mise en scène de Peter Brook. Les amoureux n'étaient non pas sur des lits, mais chez Peter Brook, mais plutôt dans des nacelles. Il y avait l'idée donc de suspendre déjà les gens, voilà. Mais il y a l'aspect très sensuel, Peter Brook est très sensuel aussi, il y a une utilisation du matériau sensible, la terre, le sable chez Peter Brook, mais Carsen a rendu les choses plus charnelles, on en arrive, vous voyez, au titre déjà, a rendu les choses plus charnelles puisqu'il a déjà multiplié les lits en scène. Bon, c'est certes pas le premier à avoir mis un lit en scène, ça va de soi, mais le lit, comme il le dit, c'est l'endroit essentiel, c'est celui où l'on est, c'est celui où on fait l'amour, c'est l'endroit où on meurt également, donc c'est l'essentiel d'une vie finalement qui se concentre sur ce meuble finalement. Et il a étendu donc le lit à toutes les dimensions de la scène, il a démultiplié les lits, et là il y a une espèce de fantaisie particulière dans ce travail qui a fait mouche tout de suite, car le public était séduit à la fois par cette espèce de gros plan sensuel sur le lit, mais également sur une direction d'acteur très fantaisiste qui tenait à la fois de Woody Allen et de quantité d'autres choses. Il a su concentrer peut-être un certain nombre de choses qui étaient dans l'air du temps tout en apportant sa patte personnelle, je crois.
Mais les couleurs, justement, les couleurs franches, les couleurs primaires qu'il a utilisées, est-ce que ça renvoie au fait que ces influences ne sont pas que théâtrales, mais elles sont également picturales?
Elles sont tout à fait picturales, en effet, parce que c'est quelqu'un de très cultivé, dans tous les domaines, y compris l'art pictural et les arts contemporains de façon générale. Et il se trouve que, mais ça n'avait pas trop dit au départ, c'est que le fameux lit de cette mise en scène du Songe d'une nuit d'été, avec cette immense couverture verte, est inspiré, enfin c'est une des sources, un tableau de l'italien Domenico Agnoli, qui représente précisément un lit, mais qui est aussi une sorte de prairie. Voilà. Et là, c'est ce qui se passe dans cette mise en scène. C'est à la fois un lit et c'est également une prairie, puisque l'action se déroule dans une prairie. Voilà. Et il a repris cet élément pictural, il a développé sa mise en scène aussi à partir de ce tableau qu'il avait marqué. Mais c'est naturellement une influence parmi d'autres.
Hockney ?
Hockney. Alors Hockney, c'est surtout beaucoup d'admiration pour Hockney qu'il a eu l'occasion de rencontrer. Mais disons qu'il n'y a pas eu d'influence directe, beaucoup d'admiration pour son travail. Il y a un côté assez épuré chez Hockney qui peut se retrouver, bien entendu, dans certaines de ses mises en scène, cela dit.
Alors vous parlez aussi de Boltanski. De quelle manière le lien se fait entre Carsen et Boltanski?
Alors, c'est toujours par des détails. C'est quelqu'un qui, naturellement, est très sensible à l'image, de toute façon, puisqu'il crée lui-même des images.
Et la multiplication des choses aussi, hein, sur scène.
La multiplication des choses, oui. Dans le cas de Boltanski, on a un effet de multiplication, mais vous avez sans doute en mémoire ces installations de Christian Boltanski, qui fait tout un travail sur la mémoire, la Shoah, le poids de la mémoire, des choses comme ça, qu'il matérialise essentiellement à travers des amas de vêtements.
Ce
qu'il a fait au Grand Palais, oui, en effet, il y a eu plusieurs installations, donc des amas de vêtements qui renvoient à ceux qui sont disparus. Voilà, il ne reste plus comme trace que les vêtements. C'est à la fois quelque chose de sensible, les vêtements, mais ça porte la trace de ceux qui ne sont plus là. Voilà. Donc il y a quelque chose de tout à fait essentiel qui l'a frappé chez Boltanski. Et il a repris cette idée d'utiliser les vêtements dans une mise en scène de La petite renarde rusée de Janáček pour représenter la forêt et représenter le cycle de la nature. Parce que l'héroïne meurt à la fin, mais ses enfants, les petits renardeaux, vont continuer le cycle de la nature. Il avait choisi de représenter la forêt, les feuilles mortes, par un amas gigantesque de vêtements en scène. Voilà. Donc les couleurs de la forêt étaient représentées par les taches de couleur des tissus.
Alors comment est-ce que Carsen s'en sort avec les conventions? Il en garde, il les détourne, il les dégage?
Il est très respectueux du texte et de la part de conventions nécessaires pour que l'opéra existe. L'opéra est un art de convention. Les conventions, les codes sont nécessaires. Vous savez quand un air se termine, parce qu'il y aura un aigu à la fin, parce qu'il y a un quatuor. Enfin, il y a toute une série de codes que nous avons intégrés et qui nous permettent d'apprécier le spectacle. Sinon, nous serions perdus, en quelque sorte. Et il s'est joué en même temps d'un certain traditionnalisme et en même temps d'une part d'innovation. Le meilleur exemple peut-être le carré de chaise, qui est une image d'Eugène Onieguin de Tchaïkovski. Voilà, le carré de chaise, qui d'ailleurs un emprunt à Pina Bausch, qu'il admire beaucoup. On pourrait parler aussi de Pina Bausch. Donc ce carré de chaise, sur la scène du Metropolitan Opera de New York, qui est immense, un carré de chaise qui résume la scénographie pour l'essentiel. Voilà. Mais par contre, ce qui aurait pu paraître austère et très, très novateur, de se contenter de quelques chaises, surtout pour le public du Met, qui est un public assez conservateur. Mais au milieu de ce carré de chaises, on a des figurants, des choristes qui sont en robe ou en frac 19e, très classique. Il y avait une sorte d'équilibre entre, on ne va pas effaroucher le public du Met en lui mettant de beaux costumes, voilà, et tout en intégrant ça dans une scénographie très dépouillée, très, très sèche d'une certaine façon. Voilà, il y avait une espèce de scénographie qui s'inscrivait dans un espace donc très dépouillé, et il y avait une sorte de respect du public qui ne pouvait pas accepter d'emblée des innovations européennes un peu trop radicales, en fait.
Oui, mais alors, dans les conventions, il y a aussi, quelquefois, de moins en moins, mais bien sûr, des décors assez représentatifs, assez illustratifs du propos. Lui, c'est des plateaux souvent assez nus.
Oui.
Comment est-ce que vous analysez, même si vous êtes très, très favorable à tout ce que fait Robert Carsen, les critiques disent qu'en fait, il tourne en rond autour des mêmes mises en scène, autour des mêmes codes qu'il s'est créé pour lui-même, le lit au milieu du plateau. Mmh. Comment est-ce que vous voyez ça? Parce que par ailleurs, dans le livre, à un moment, vous dites, cette répétition qui marque un style, on le verrait chez un peintre, on dit que c'est vraiment ça qui marque son style. Oui. Chez lui, on dit qu'il ne se renouvelle pas.
Oui, alors là, c'est toute l'ambiguïté des choses. Parce que oui, je suis tout à fait persuadé, en ce qui me concerne, qu'un metteur en scène a un style, et un style, ça se fonde aussi sur la répétition. Il y a des éléments qui font qu'on reconnaît cet artiste par les éléments de son travail qui reviennent. Voilà. Donc ça me semble indéniable. Vous reconnaissez un Manet, vous reconnaissez un Picasso, vous reconnaissez tout ce que vous voulez, parce qu'il y a des traits que vous avez reconnus. Et il me semble que pour un metteur en scène, ce doit être la même chose. Bon, ça pose là le problème de la mise en scène d'opéra au sens le plus large. Je pense d'une certaine façon que la mise en scène d'opéra a cette particularité que c'est une création artistique qui se greffe sur une autre forme artistique. Bon, c'est un petit côté un peu parasite, dit comme ça. Mais voilà, donc l'artiste va arriver, il va servir l'œuvre de son mieux, puis en même temps, il va apporter son style qui émane aussi de son époque, de tout ce qu'il a pu comprendre, de tout ce qu'il a pu percevoir de notre temps, pour pouvoir proposer une approche de l'œuvre qui soit nouvelle. Donc ce style, ces répétitions, le langage qui s'est créé, est au service de l'œuvre, et au service de l'œuvre pour la rendre plus compréhensible, plus accessible à un public contemporain.
Est-ce que vous avez eu le sentiment, même si on comprend que vous êtes extrêmement séduit par le travail et par l'homme, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez l'impression que c'était plus faible, qu'il était dans une phase en plateau, où vous avez toujours eu l'impression que chaque opéra disait quelque chose de nouveau et de fort?
Alors, on est toujours un peu déformé quand on admire un artiste et qu'on travaille sur lui, parce qu'on arrive toujours à le défendre dans toutes les circonstances. Bon, pour être tout à fait honnête, bien sûr, j'ai fait le choix de ne pas être critique dans cet ouvrage. On a pu me le reprocher gentiment à certains moments. C'était un choix. J'ai essayé de rendre la cohérence d'un travail, avant tout. Voilà, donc de le justifier peut-être par moment. Mais je reconnais en même temps qu'à mon sens, il y a des mises en scène que je trouvais un peu moins réussies ou disons qui me parlaient un peu moins. Et il me semble en même temps que c'est tout à fait naturel aussi. Il peut y avoir des hauts et des bas, et peut-être également qu'on n'est pas toujours sensible à telle ou telle œuvre également, ce qui fait que ça compromet un peu la perception qu'on peut avoir d'une mise en scène.
Je regardais, je ne veux pas vous faire perdre du temps avec ça, mais c'était, je crois, Christian Merlin, je le retrouverai tout à l'heure, qui était très critique sur un opéra en disant qu'effectivement...
Oui, je ne sais plus ce qu'il disait exactement, mais une fois qu'on avait vu, je ne sais plus, Roussalka, etc., on avait vu finalement un tout petit peu les mêmes procédés. Oui, mais en fait, je pense qu'il réussit à montrer les obsessions qu'il y a dans certains opéras. Comme j'ai tout à l'heure parlé du lit, qui est l'endroit où l'on est, etc., où l'on fait l'amour, etc., enfin, les oui. éléments fondamentaux de notre existence. Et retrouver, reproduire les mêmes gestes scéniques, c'est également mettre en évidence les obsessions des opéras. En fait.
Oui.
Notamment tout ce qui est initiatique. Il y a beaucoup d'opéras qui racontent des histoires initiatiques. Comment les jeunes gens se sortent des épreuves de l'amour, de l'existence ? La Flûte enchantée, qui est l'ouvrage peut-être le plus caractéristique dans ce domaine-là. Voilà, donc il a choisi de mettre, avec son langage, en relief, ce qu'on pourrait appeler les obsessions de l'art lyrique.
Alors parmi ces obsessions, on cite sa volonté d'esthétisme, de faire joli. Vous citez une phrase d'André Dubœuf qui est très mignonne en disant que même la tête sur l'échafaud, Robert Carson ne pourrait pas s'empêcher de faire chic.
Oui.
Donc cet esthétisme, cette volonté d'esthétique, c'est le point de départ de tout son travail ou...
Ça, c'est une question difficile. Parce que l'esthétisme, déjà, c'est une question qui est complexe en soi. Qu'est-ce que c'est que la beauté ? C'est très délicat. Une certaine forme d'harmonie, peut-être. Certaines formes d'harmonie, vous parliez tout à l'heure des couleurs, des formes. Cette recherche d'harmonie qui est en phase avec nos capacités perspectives, peut-être. Il fait en sorte d'accompagner... Oui, je crois que c'est comme ça qu'on peut dire les choses. Il fait en sorte d'accompagner le mieux possible le regard du spectateur. Que le spectateur ne soit pas brutalisé par des choix violents. Ça peut être très efficace en même temps de brutaliser un spectateur. Mais Carsen, il le fait d'ailleurs quelquefois. Mais il préfère accompagner le regard du spectateur par... la direction naturelle de notre regard, où va notre regard en fait, à quelle couleur sommes-nous sensibles. Il fait en sorte d'accompagner justement le spectateur pour qu'il soit amené progressivement dans l'opéra.
On a un souvenir, lorsque avait été créé à Bordeaux les Noces de Figaro, je crois que c'est au troisième acte, je ne me rappelle plus exactement, Figaro arrivait par la scène. Par la salle, pardon, au 4.
Oui.
Il arrivait par la salle. Alors, à cette époque-là, c'était assez nouveau. Maintenant, tout le monde le fait. Ça plus rien d'exceptionnel. Oui. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait un monsieur à Bordeaux qui venait souvent au spectacle d'opéra qui s'appelait Félix de Rochebrune, c'est ça, et qui s'est levé et qui a dit « c'est innommable » ou quelque chose comme ça, et qui est sorti de la salle avec son panama blanc. Mais maintenant, bien sûr, ça n'étonne plus personne.
Mais c'est précisément un très bon exemple pour, à propos de ce que je disais, l'accompagnement du spectateur. Il oriente le regard du spectateur vers des lignes inattendues aussi. C'est comme ça qu'il sait brutaliser en douceur, changer les modes de perception, pas tout le temps la scène, mais diriger le regard vers la salle, faire sortir un personnage par la salle, faire entrer les choristes par la salle. Faire sortir un personnage du plateau par un endroit auquel on ne t'attend pas, faire apparaître le commandeur dans Don Giovanni, dans la loge royale de la Scala de Milan. Là, on se retourne, mais d'où vient la voix du commandeur ? Oui, il est derrière, dans la loge. Voilà. Donc, il déstabilise, mais en même temps, il y a une espèce de connivence qui se crée comme ça, à travers cette proximité qui est créée entre l'artiste et le public aussi, je crois.
Alors, parlons de la façon dont il travaille. Comment Robert Carsen travaille-t-il ? Comment est la genèse d'un opéra ? Il parle beaucoup, il écoute beaucoup.
Oui. Il parle beaucoup. Le travail de préparation n'est pas fondamentalement différent de celui des autres metteurs en scène. Ils ont tous une phase de rencontre avec les plasticiens, les costumiers, etc. Il a une équipe assez solide, oui, en effet. C'est souvent les mêmes artistes qui reviennent autour de lui. Donc la phase de préparation n'est pas fondamentalement différente, mais il y a quand même une chose qui importe, c'est qu'il travaille beaucoup avec un dramaturge, Ian Burton, un universitaire britannique, qui fait, bon, comme d'autres dramaturges, tout un travail de défrichage de l'œuvre. Mais ils ont comme ambition, et à la fois comme objectif très modeste, c'est de revisiter le texte et la musique à nouveau frais. C'est-à-dire, on remet les choses à plat. Qu'est-ce que raconte cette histoire, finalement ? Et surtout, derrière les métaphores, derrière les images, mais qu'est-ce qu'il y a ? Que raconte réellement cet opéra ? Et si on se pose la question, que raconte réellement cet opéra ? C'est également se poser la question, qu'est-ce qu'il peut bien avoir à dire à un public contemporain, justement ? Donc il est très sensible au travail sur les métaphores. Par exemple, dans la Bohème, il a prêté beaucoup d'importance à l'importance à la primauté des fleurs, l'évocation des fleurs dans cet opéra. Mimi évoque les fleurs qu'elle coud. Et bien justement, on part de ça et on en fait quelque chose. Les fleurs, c'est le printemps. Elle est associée au printemps, cette jeune cousette également. Et à la fin de l'opéra, eh bien, les fleurs envahissent le plateau pour la mort de l'héroïne qui renaîtra dans la vie future de son amoureux. En fait, voilà, les fleurs symbolisent justement cette espérance, ce goût pour la vie, cet attachement désespéré pour la vie. Voilà. Donc il travaille sur ces images qui sont présentes dans le texte, mais qui va amplifier, qui va développer, qui va mettre en évidence sur le plateau.
Alors quand il arrive en plateau pour commencer les répétitions, est-ce qu'il retrouve sur scène des artistes au choix desquels il a contribué ? Parce qu'avec le degré de notoriété qu'il a, est-ce qu'il peut influencer des directeurs d'opéra au moment des distributions pour dire « j'aimerais retravailler » ou « j'aimerais travailler avec cet artiste » ?
Il m'assure que son pouvoir dans ce domaine est très limité, mais il y a quand même des rencontres qui ont été décisives et qui se poursuivent à travers les années, notamment avec la soprano Renée Fleming, la très belle Renée Fleming, qui a eu cette... Ce sont de vieux amis, en fait, ils ont beaucoup travaillé ensemble, et lui est très sensible à la plastique de Renée Fleming, je parlais d'Hitchcock tout à l'heure. Bon, voilà, c'est la plastique hitchcockienne par excellence, Renée Fleming, et il est séduit par celle qui est pour lui l'icône féminine par excellence. Renée Fleming est la rencontre, l'artiste qui est un peu qui constitue une sorte de fil rouge dans sa carrière. Ils ont beaucoup travaillé ensemble pour Osalka, pour Capriccio, pour beaucoup d'œuvres.
Et en plateau, il est très présent, il est beaucoup sur scène.
Il est très présent sur scène. Alors, pour vous donner un exemple très, très concret, je l'ai vu arriver pour Tannhauser, à l'Opéra Bastille. Bon, il devait assurer, c'était une reprise. Hein, voilà. Donc, il devait simplement remettre en place. Bon, il a laissé à ses assistants le travail de reprise, mais il arrive, comme toujours, pour les dernières répétitions, pour resserrer un tout petit peu les boulons. Et là, il était fatigué. Je ne sais plus d'où il arrivait. Décalage horaire, un peu bougon, il y a eu des problèmes. Il était fatigué. Enfin, ça n'allait pas du tout. Et donc, il était là, en train de donner quelques directives depuis la salle avec son micro. Vous savez, c'est grand, la salle de l'Opéra Bastille, voilà. Et puis, à un moment donné, il lâche son micro et hop, en scène, hop. Et celui qui était un peu dolent, un peu fatigué, s'est transformé en bûcheron canadien. D'ailleurs, il portait une veste canadienne. Et là, il était présent sur le terrain. Il empoignait les choristes, les gens, etc. Il a remodelé tout ça. Et en 5 minutes, ça fonctionnait. Ce qui ne marchait pas fonctionnait. Voilà, c'est admirable. Il dégage une énergie. Et là, il a aussi également un contact humain extraordinaire. Dès qu'il arrive sur le plateau, les choristes applaudissent. C'est plutôt bon signe, ça, généralement.
Déjà. C'est plutôt bon signe, oui. Ça veut dire aussi qu'il a la réputation de bien savoir diriger les mouvements, entre guillemets, de foule et de choristes. C'est quelque chose qu'il travaille en faisant des dessins. Comment ça se passe ? Il y a une part d'improvisation. Est-ce que les artistes peuvent proposer des choses ou on ne propose pas Robert Fersen ?
Alors, pour ce qui concerne l'intégration de la chorégraphie à son travail, il y a l'influence de Pina Bausch, déjà. Il a été un grand ami de Pina Bausch, qu'il a rencontré très tôt dans sa carrière. Il a été fasciné par son travail et également par l'utilisation des matériaux sensibles, vous savez, les fleurs, etc., la terre qu'on retrouve beaucoup dans les mises en scène de Pina Bausch. Mais surtout, donc, c'était cette importance de la chorégraphie, le groupe chorégraphié. Ah, ça, c'est quelque chose qui l'a fasciné très tôt. Donc, pour mieux rendre l'unité d'un groupe, d'une communauté, et Dieu sait s'il y en a des communautés dans les opéras, voilà, le mieux était de chorégraphier les mouvements. par exemple, dans Turandot, la foule chinoise devient un ensemble qui a son unité, qui acquis par la chorégraphie. Voilà. Et pour répondre à la suite de la question, ce n'est pas lui qui travaille les chorégraphies. Il est fasciné par ça, mais il délègue soit, quand c'est un opéra baroque, à des chorégraphes baroques, voilà, soit il travaille beaucoup avec Philippe Giraudot, le frère de Bernard Giraudot, qui chorégraphie très souvent les mises en scène qui ne sont pas d'opéra, pour des mises en scène d'opéra qui ne sont pas baroques. Voilà.
Est-ce que... Enfin, il a la réputation de rester quasiment jusqu'à la dernière représentation et de lire des notes tous les soirs, vous confirmez ?
Non, ça ne le fait pas quand même systématiquement parce qu'il doit souvent repartir ailleurs pour contrôler une autre reprise. Voilà, donc non, il est plus aussi systématique qu'il a pu être pour des questions, je crois, de temps, malgré tout. Mais il reste très présent jusqu'au dernier moment. Et les artistes sont... je crois que c'est soprano Karen Wurch qui me disait qu'à l'issue d'un travail de 3 semaines à Genève avec Carsen, elle se sentait quasiment orpheline après.
Bien sûr.
C'est quand même aussi plutôt bon signe.
Alors, beaucoup de mises en scène d'opéra, bien sûr, je crois. Combien ? 80 ?
Oh, si on compte les travaux de jeunesse, on dépasse la centaine.
Mais également des expositions.
Des expositions. Alors, ça paraît relativement tard dans sa carrière, c'est assez récent. Mais il est notamment ami de Guy Cocheval, conservateur du musée d'Orsay, et qui lui a proposé de faire des scénographies d'opéra, et d'autres lui ont proposé d'opéra, excusez-moi, d'exposition. Et il y a pris goût, donc il y a eu une exposition sur Marie-Antoinette, il y a eu l'exposition sur l'impressionnisme et la mode, une exposition sur Charles Garnier, voilà, donc il y en a eu plusieurs comme ça qui ont beaucoup séduit, je crois, le public parisien.
Et des comédies musicales.
Et des comédies musicales, voilà, qu'il a essentiellement au Châtelet. Il y a eu My Fair Lady, il y a eu Candide, qui a été notamment un grand succès, Singing in the Rain également. Voilà. Ça, c'est également un aspect très intéressant de son travail, parce que même si les choses ont un peu changé, la comédie musicale a pu être considérée comme un genre un peu mineur par rapport à l'opéra, ce que le public anglo-saxon voit sous un autre angle. Et le public français, je crois, commence à aimer beaucoup les comédies musicales. D'ailleurs, je crois qu'il y aura Candide
oui,
à Bordeaux sous peu. Voilà. Et par conséquent, là, il y a quelque chose qui se passe, qui fait qu'il y a une séduction réelle de la comédie musicale. Et Carsen, en bon anglo-saxon, a hérité de cette forme de théâtre, un certain sens du timing, du rythme, de la séduction immédiate, dans le meilleur sens du terme, oui, auprès du public. Voilà, et c'est une forme à laquelle il revient régulièrement.
Est-ce que vous voulez parler de son manque d'obsession, en fait, de son rapport à la transposition d'époque, qui n'est pas obsessionnel chez lui, qui intervient de façon ponctuelle, dans Rigoletto.
Oui, ça, la question de la... En fait, ce qu'il dit, c'est que... dans l'héritage de Peter Brook, en fait, oui, qui était également dans cette lignée-là...
Il faut que ça ait un vrai sens.
Il faut que ça ait un sens, et pas de faire du théâtre rasoir, pour prendre les termes de Peter Brook, mais il faut que ça parle directement au public contemporain, et la transposition à notre époque est la façon la plus simple de rapprocher du public. Oui. Voilà. Mais il n'en fait pas non plus quelque chose de systématique. Dans certains cas, s'il y a un aspect, disons, un peu mythique dans un opéra qu'on ne peut pas, disons, modifier sans attenter à l'œuvre, dans ce cas-là, il va rester dans l'époque. Mais c'est quand même relativement rare désormais dans son travail. Même pour Dialogue des Carmélites, qui se passe à l'époque révolutionnaire, il s'était contenté d'un certain flou dans la localisation temporelle. On ne savait pas trop si on était sous la Révolution ou pas. Il gardait quand même quelques détails, mais la transposition n'était pas trop franche.
Votre mise en scène préférée de Robert Carsen, celle que vous ne vous lassez pas de revoir.
De revoir. Alors, c'est vraiment une question piège. J'ai droit à 2 ou 3 ?
Oui.
Oui, peut-être. Oui, oui. Comme oui, ça, ce sera préférable. Tosca. J'ai adoré Tosca, car il fait de Tosca... Bon, vous savez que c'est précisément un bon exemple d'élément que Robert Carsen sait mettre en relief. C'est une cantatrice. Cantatrice, oui. Floria Tosca. Et il en fait un élément essentiel. C'est cette femme-là, c'est une femme de théâtre. Eh bien, très bien, on joue le jeu jusqu'au bout. C'est une femme de théâtre. Eh bien, on ne va pas se contenter de la montrer en train de chanter comme ça au deuxième acte. Non, elle va rester femme de théâtre du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que l'église où elle apparaît au premier acte, eh bien finalement, c'est un théâtre aussi. Et qu'est-ce qu'elle joue dans ce théâtre qui est une église? Eh bien, elle joue la Madone. La Madone qui va s'élever dans les airs, voilà, pour le final du premier acte, sous le regard enthousiaste du public. Mais du public qui est, sont les participants à la messe, en fait, qui sont aussi un public, voilà, puisque l'église, c'est du théâtre, finalement, d'une certaine façon. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il joue sur cette logique du théâtre jusqu'au bout. Et ça marche de façon tout à fait prodigieuse. Et là, il y a quelque chose, cet aspect de théâtre dans le théâtre, qui est aussi une de ses caractéristiques essentielles, marchait remarquablement bien. Voilà. Et là, c'est une mise en scène pour laquelle j'ai une certaine tendresse, mais je pourrais mentionner aussi d'autres. La fille du Far West, peut-être, une mise en scène très, très peu connue. Vous savez, ça se passe au Far West, hein, comme le titre l'indique bien, avec cette tenancière de saloon qui est adorée par tous ces mineurs qui sont en fou d'amour. C'est la seule femme dans le coin, de toute façon. Voilà. Et bien là aussi, il a joué sur la même logique que dans Tosca. Si ces mineurs sont tous fascinés par cette femme, mais c'est une héroïne de cinéma, finalement. Ce qui fait que la première fois où elle apparaît, eh bien, c'est sur une image en cinémascope. Le rideau se lève et on voit l'héroïne sur un fond technicolor, cinémascope, avec son pistolet brandi et tous les hommes qui sont admiratifs devant cette icône cinématographique.
C'est pas une lecture un peu premier degré?
Ah, c'est pas premier degré. En fait, sur cet aspect-là, ça a été beaucoup imité. En fait, il a pratiquement été le premier à se rendre compte que La fille du Far West, cette opéra de Puccini, c'est contemporain des premiers westerns cinématographiques. Donc, il y avait une espèce de logique aussi historique. Et il y a d'autres metteurs en scène qui se sont dit « Ah, tiens, il y a quelque chose à faire ». Donc, depuis, les mises en scène cinématographiques de La fille du Far West font de plus en plus leur apparition. Donc, il a lancé quelque chose, je crois, qui s'est bien implanté après.
Une troisième.
Qu'est-ce que je pourrais vous
le
dire?
Le songe, comme tout le monde?
Non. Ah oui, le songe, mais c'est presque trop facile, le songe, je serais tenté de dire. Oh, si, quand même, j'ai une tendresse aussi pour les noces de Figaro de Bordeaux, également.
Vous les aviez vues à la création?
Oui, je les ai vues à la création. Et la fameuse forêt de mannequins au dernier acte était d'une
toujours
telle
dans
beauté.
Effectivement, la répétition, la multiplication des objets sur scène.
La multiplication des objets, oui, et ces mannequins.
C'était très réussi.
Oui, c'est tout à fait. C'était très lié au corps, justement, ce travail sur le corps. La présence des mannequins, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec ces vêtements.
C'est mannequins de couturière, je ne sais pas.
Mannequins de couturière, oui, il faut le préciser, en effet, oui. Qui représentaient les arbres du parc, finalement. Voilà, donc ce qui avait pu un peu surprendre. Mais c'était dans la logique de ce travail où... C'est le dernier acte des Noces de Figaro, un jeu des faux-semblants. On ne sait plus qui est qui, finalement. Les échanges de vêtements sont essentiels pour brouiller les identités. Eh bien, ces mannequins de couturière, c'est le support de ces vêtements. Voilà. Donc, il y avait une continuité avec ce jeu sur les vêtements qui brouillent les identités des personnages. Et c'était une idée à la fois simple et tout à fait fabuleuse. C'était beau.
Dans les idées assez simples aussi, vous évoquez dans le livre le fait que quand il monte un opéra dans une ville, il essaie de créer un lien, de trouver quelque chose qui renvoie. Oui. Donc dans les Noces de Figaro, nous avions des caisses de vin sur scène.
Exactement.
Alors, je pense qu'il n'y a que celui qui avait fourni les caisses qui savait que c'était les siennes, parce que depuis la salle, c'était quand même difficile de voir si c'était du Mouton Rothschild ou une piquette infâme.
J'imagine. Il y a souvent des traits d'humour comme ça. Mais en fait...
À Vienne, il fait référence à Freud
pour la mise en scène de La femme sans ombre qui raconte l'histoire. Enfin, c'est une histoire tout à fait merveilleuse de femme qui doit la fille d'un dieu qui doit avoir une ombre, sinon son mari sera pétrifié. Enfin, l'ombre a un rapport avec la fécondité, naturellement. Voilà, donc il y a toute une histoire comme ça, une sorte de conte de fées un peu alambiqué, qui ne s'impose pas peut-être très très bien au sens. Il a fait quelque chose de très limpide, cette femme. Qui est à la recherche du nombre. En fait, ça devenait une grande bourgeoise viennoise qui avait des problèmes de frigidité, voilà, et donc un rapport difficile avec son mari. Et il fallait qu'elle puisse surmonter ses problèmes relationnels avec les hommes. Et voilà, c'était donc une viennoise en analyse. Voilà, c'était tout à fait en rapport avec le génie du lieu, Freud. Oui.
Comment est-ce que Robert Carson fonctionne avec les directeurs d'opéra? Il fait savoir qu'il aimerait venir présenter une œuvre dans un opéra. Et quelle œuvre? Où ce sont les directeurs d'opéra qui vont vers lui? Les deux se passent. Est-ce qu'il fait peur à certains directeurs? pour des raisons budgétaires aussi ?
Je ne crois pas qu'il fasse peur, enfin je n'ai rien entendu de la sorte en tout cas. Il a pu émettre quelques vœux, mais oui, de temps en temps, on peut lui demander ce qu'il a envie de mettre en scène, mais il est parfois obligé d'attendre très longtemps. Un de ses désirs était par exemple de mettre en scène The Rex Progress de Stravinsky. Il attend encore, mais ça va se faire, je crois, bientôt. Voilà. Donc, il attend quand même beaucoup les sollicitations. Il aime bien travailler pour... Il s'est attaché à des directeurs d'opéra, ceux qui l'ont lancé, Marc Lemmer, par exemple, de l'opéra flamand, qui après a continué sa carrière à Strasbourg. Donc, il a suivi Marc Lemmer à Strasbourg. Il a donc fait aussi des mises en scène pour Strasbourg. Il a repris certains de ses spectacles. Il en a repris d'autres, surtout les œuvres de Janáček. Voilà, une sorte de fidélité quand même à certains directeurs d'opéra. Mais il est très ouvert à toutes les propositions qui peuvent parfois venir d'autres, d'ailleurs que de l'opéra, donc les mises en scène d'exposition. Mais il y a un scoop, je ne peux pas en dire plus parce que moi-même je ne sais pas tout, mais la Comédie française l'a sollicité. Il y aura un Carsen à la Comédie française la saison prochaine, à Shakespeare.
Et lequel ? Donc j'allais vous poser la question des projets, donc en voilà, voilà. Un. Et en termes de mise en scène d'opéra ?
Alors, le fameux opéra de Korngold, Die Tote Stadt, La Ville Morte, où là, on attend, il y a aussi une histoire très, très freudienne d'homme qui tombe amoureux du sosie de sa femme défunte. Voilà, opéra très psychanalytique. Et là, je crois, vu le goût de Ruyard Carsen pour la psychanalyse, je pense que ce sera un très bon spectacle.
Vous avez demandé un avant-propos à Lambert Wilson ?
Oui.
Pourquoi ?
Lui. En fait, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est Robert Carsen lui-même qui me téléphone un matin en disant « J'ai une idée géniale, je te fais confiance en termes de génie. » Et pour me dire qu'il avait donc songé à demander ça à Lambert Wilson, parce que Lambert Wilson est quelqu'un qui... Il chante bien et ils ont travaillé ensemble, oui. Justement, pour Candide de Bernstein au Théâtre du Châtelet, où Lambert Wilson tenait notamment le rôle de Pangloss. Et Lambert Wilson a eu beaucoup d'admiration pour le travail de Carsen. Il regrettait de ne jamais avoir eu l'occasion de travailler avec lui. Bon, parce que Lambert Wilson chante de la comédie musicale, mais il n'est pas chanteur d'opéra non plus, donc il n'avait pas eu l'occasion de faire ça. Et là, sur ce projet, enfin, ils avaient pu être réunis, et là, ça a été bon, le coup de foudre, travailler avec Robert Carsen. Là, ils sont vraiment tombés en amitié, cette fois-là. Et donc, il lui a fait ce beau geste que d'écrire cette préface.
Vous avez écrit dans votre livre « Devant le talent, il vaut mieux se tenir quoi ?» Donc, lorsque vous admirez quelqu'un comme Carsen, vous vous tenez quoi en 280 pages ?
Non, je parle beaucoup, en fait. Voilà. Donc, on ne peut pas tout à fait se tenir quoi, ce n'est pas possible. Mais on tâche d'essayer de comprendre. La critique d'opéra doit travailler dans l'urgence, rendre compte d'un spectacle. On a au mieux un jour, au mieux quelques semaines. Oui, mais c'est toujours très, très court pour apprécier un spectacle, pour essayer de comprendre ce qu'un metteur en scène a voulu faire. Il y a parfois une certaine dose d'injustice. L'avantage de faire un travail de ce type-là, c'est qu'on a forcément du recul. On a le temps de comprendre, d'essayer de comprendre. Je ne prétends pas tout comprendre, justement. Mais voilà, ce recul, oui, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Je reste quoi ? J'attends, j'accepte, je laisse parler ma sensibilité et mon sens analytique, après, naturellement. Mais voilà, il faut rester un peu modeste devant ceux qu'on a reconnus comme étant des génies pour essayer de comprendre ce qu'ils ont à nous dire.
Alors, pour ceux qui aiment le style de Thierry Santurène et qui le connaissent, ils le retrouveront dans les programmes de l'Opéra de Bordeaux, puisque vous y collaborez. Un autre livre en projet ?
Non, je me repose pour l'instant. Nous verrons après.
Non, je vous recommande vivement de lire, parce qu'on a, fait qu'effleurer vraiment tout ce qu'il y a dans ce livre. Mesdames, messieurs, nous vous remercions de votre présence ce soir. Et on souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Thierry, joyeux Noël.
Merci à vous. Joyeux Noël également.